Boucalade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
Du T-Rex au poulet, il n'y a qu'un pas. Titre d'un article de 20 minutes. D'après des études, cet oiseau inoffensif serait un descendant de l'un des plus féroces dinosaures que la Terre ait connu. Une question de taille. Les ancêtres des poulets étaient le plus souvent petits et agiles, ce qui leur permettait d'échapper à la plupart des prédateurs. Les plumes des fossiles tentent à montrer que de nombreux dinosaures primitifs avaient des plumes. On pense qu'elles leur servaient pour la parade amoureuse. Le vol permet non seulement aux oiseaux d'échapper aux prédateurs, mais aussi d'accéder à de nouveaux types d'aliments. La domestication du poulet a assuré sa survie. Ses ancêtres sont le coq doré et le coq de Sonora. Mais à quoi ressemblait le poulet il y a plusieurs millions d'années? Au saurischien, il y a 231 millions d'années. D'aucuns pensent que les oiseaux descendent de ce troupe de dinosaures primitifs. L'un d'eux est Léoraptor, l'un des plus anciens dinosaures connus, qui se distinguait par ses pattes munies d'une sorte de main préhensible. Mais encore l'Archéoptérix, il y a 15 millions d'années. Pour beaucoup, l'Archéoptérix est le chaînon manquant le plus évident entre les dinosaures et les oiseaux d'aujourd'hui, en raison des nombreuses similitudes entre les deux espèces. Il avait la taille d'un corbeau et se distinguait par ses plumes de vol ou pennes développées. Les fossiles constituent la meilleure façon d'étudier l'évolution des animaux en nous permettant de voir leur évolution au fil du temps, nous disent les scientifiques. Ajoutons à cela qu'ils ont récemment découvert des preuves moléculaires qui relient l'imposant Tyrannosaure Rex au poulet domestique. Toutefois, il reste encore de nombreuses questions sans réponse. À suivre.
Calade.
Ma radio.
L'info locale et régionale.
Surprise! Du nouveau sur l'application des Niolus pour les vacances de Toussaint. Roseau Premier, spécialiste des espaces naturels préservés, et Beta, incollable sur les animaux, viennent s'ajouter aux 10 autres Niolus disponibles sur l'application dans une folle aventure de chasse au trésor caché au cœur du territoire. Ludique et gratuit. 5 nouveaux parcours viendront s'ajouter aux 48 existants à découvrir en famille à partir du samedi 21 octobre. Extrait d'une chasse au Niolu en Beaujolais.
Tu sais où on est là?
Non.
Non? Ah, on va demander à Juliette alors. Juliette, tu sais où on est là?
Non.
On se trouve où?
Le chemin de la ronde.
Alors, tu sais ce que c'est que le chemin de la ronde, toi?
C'est quand les...
C'est un truc qui nous fait tourner en rond.
C'est quand les gens du village, ils regardent, ils font le tour du château pour voir s'il n'y a pas de bandits qui viennent attaquer.
Les gens du village, ils protègent leur château?
Oui.
Ok, d'accord. Donc là, effectivement, c'est un parcours relativement éducatif. Hein.
Exactement, donc ça rassemble de l'histoire, donc beaucoup de culture, du jeu pour les enfants, de l'orientation, tout ça sous le soleil du Beaujolais.
Vous partez déjà à la bonne heure. Nous allons foyester et ripailler pour l'occasion, comme à la fête des conscrits. Au 19e siècle, les Français âgés de 20 ans étaient inscrits sur les tableaux de recrutement de l'armée. Avant leur départ pour le service militaire, ces co-inscrits ou conscrits faisaient la fête avec la classe. Prétentieux, la classe est une seconde nature chez moi. La classe désigne celles et ceux qui sont nés la même année aujourd'hui dans tous les villages du Beaujolais. On se réunit pour célébrer les 20 ans et les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans, les 60 ans. Cette tradition est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2020.
Mais au fait, comment les Niolus ont-ils envahi notre territoire?
Alors, Christelle Marman, et du coup, je suis chef de projet pour le projet géocaching Les Niolus avec Rhône Tourisme. Ces petites créatures déjantées,
voilà, c'est ça.
Qui ont envahi, donc, ils ont commencé à envahir les monts lyonnais et aujourd'hui, ils s'étendent sur l'ensemble du département du Rhône. Donc, actuellement, on a 31 parcours, avec notamment 12 parcours sur le Beaujolais qui sont arrivés au printemps. Et l'objectif, c'est de développer ces parcours qui permettent de découvrir le territoire de façon ludique. On a mis en place une application Lenyolu qui est gratuite, qui permet de se balader tout en s'amusant, répondre à des questions tout au long du parcours et à la fin de découvrir le trésor, ce fameux Nyolu à capturer, donc l'objectif de la balade. Sur Ouin, sur Ternan, sur Julier, sur plein de parcours, Anse, on a essayé de répartir sur le territoire les parcours en fonction des thématiques. Du coup, on a 9 thématiques, donc 9 Nyolus différents qui nous apportent leurs connaissances sur l'histoire, sur la gastronomie, l'eau, etc.
La géologie.
Géologie, tout à fait. Justement, on a un parcours sur cette thématique-là.
Et pour finir, quelques explications pratiques.
C'est ça, exactement. C'est une offre gratuite, une application donc qui se télécharge sur l'Apple Store ou sur le Play Store. Et vous partez en autonomie sur ces parcours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est ça aussi le gros plus de cette application.
Donc tu connais les petits personnages, Juliette, toi ?
Oui.
Alors lesquels que tu connais dans les petits personnages ?
Cloche, Graal, il y a Bologno, il y a Elodie, non c'est Edoli. Il y a Opinel.
Et celui que tu préfères, Juliette ?
Moi, Bologno.
Alors Bologno, qu'est-ce qu'il fait, lui ?
C'est un grand cuisinier.
Un grand cuisinier. Ah, tu aimes bien manger, Juliette ?
Oh oui, beaucoup.
Et toi, comment tu t'appelles ?
Mathieu.
Mathieu. Et Mathieu, alors toi, ton personnage préféré dans les Nyolus, c'est quoi ?
Graal.
Graal, là ? Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Graal ?
Non, je sais pas.
Tu sais pas ? Et pourquoi tu le préfères ? Parce qu'il est rigolo,
Parce que j'aime bien ses énigmes.
Des énigmes ?
Oui.
Les 48 parcours proposés sur l'application jalonnent l'ensemble du département. Rhône Tourisme développe cette offre de géocoaching en partenariat avec les offices de tourisme du territoire et les communautés de communes. L'objectif est de proposer dans un délai de 5 ans 80 parcours à travers le Rhône. Les Nyolus sont disponibles sur l'application Google Play et App Store. Pluies et inondations sont au rendez-vous. Nous suivons les bons conseils du syndicat mixte des rivières du Beaujolais par téléphone en compagnie de Jérémy Gauberti. Il est chargé de mission prévention inondation pour le SMRB.
La protection, ça passe pour plusieurs choses. Réduire le risque d'inondation, notre vulnérabilité face aux inondations, on va avoir plusieurs approches. La première approche, c'est ce que fait notre syndicat, le syndicat mixte des rivières du Beaujolais, c'est de faire des travaux, des aménagements pour déjà réduire la fréquence et l'intensité des inondations, réduire les débordements des rivières. Notamment sur le Morgon, c'est un projet qui est en cours et qui devrait se finaliser en 2025-2026, projet d'aménagement en amont de Glaizé pour réduire la probabilité qu'il y ait effectivement des inondations qui touchent Villefranche du fait des débordements du Morgon. Ça, c'est le premier volet, mais ces aménagements ne vont pas complètement supprimer le risque. Il y aura des secteurs qui pourront encore être inondés jusqu'à ce qu'on appelle la crue cinquantennale. Et au-delà de la crue cinquantennale, donc il y a une chance sur 50 chaque année d'advenir, au-delà de cette crue, nos systèmes ne seront plus efficaces. Donc, il faut toujours être conscient que malgré ces travaux, les inondations seront toujours possibles dans le centre de Villefranche et à Glaizé.
En matière de prévention, comment les habitants peuvent anticiper pour se protéger ?
La première étape, la première protection, c'est déjà la connaissance du risque. Comme je disais, pour rappeler que ce risque existe, et c'est déjà une étape, c'est déjà un pas vers notre propre protection, puisque on n'est pas pris par surprise. Si on est bien renseigné, on sait à quoi est due cette inondation au Morgon, dans quel cas éventuellement elle peut se produire, on peut un peu anticiper. C'est déjà une première étape. L'expérience montre que c'est une étape qui est très importante. Les situations dangereuses arrivent surtout quand les gens sont mal informés. Et c'est déjà une première étape. Après, si on veut aller plus loin, on peut s'informer, savoir comment réagir face aux inondations. Être vigilant quand Météo France nous alerte sur des pluies importantes, des risques d'inondations, même regarder le ciel, si on habite pas loin du Morgon, surveiller s'il monte vite en cas de pluie, essayer d'anticiper et savoir réagir pour d'une part ne pas se mettre en danger, par exemple en s'engageant dans une route inondée ou en allant chercher ses enfants à l'école pendant une inondation. Ça, ce sont des choses qui sont déconseillées parce qu'on risque de se mettre plus en danger qu'en restant chez soi. Et deuxièmement, si on a le temps et la possibilité de mettre à l'abri des objets de valeur qui pourraient être inondables. Donc comme je disais, à Villefranche, les crues du Morgon ne vont pas dépasser 1 mètre, 1 mètre 50. Déjà, on sait que si on surélève certains des objets les plus précieux, on en sauve une partie.
Et dans les conseils pratiques d'anticipation, une troisième étape plus technique.
La troisième étape qui va encore plus loin, c'est de s'adapter en anticipation aux inondations. Adapter son logement en faisant par exemple poser des bâtards d'eau donc devant les portes d'entrée qui vont jusqu'à 50 cm de haut, empêcher complètement l'eau de rentrer, en surélevant les équipements les plus sensibles de manière durable, comme une chaudière ou l'électroménager, pour le mettre hors d'eau. Une étape qui est plus lourde à mettre en œuvre, mais le syndicat aide les habitants à faire ce pas-là à travers des diagnostics gratuits des logements et puis le financement des travaux qui pourraient être préconisés.
Et pour conclure, est-il prévu des exercices de simulation aux inondations auprès des habitants ?
Oui. Pour plus de connaissances sur les consignes, il y a notre site internet, bien sûr. On a édité une brochure qui récapitule un peu tout ce que j'ai dit. Et il doit y avoir des documents communaux aussi, puisque les communes informent aussi sur les risques, et notamment sur les inondations. Vous me posez la question des exercices. Enfin, plutôt les communes qui vont organiser des exercices de crise, hein, que ça peut être sur une inondation ou un risque technologique, ou ça peut être un exercice juste qui concerne les services de secours ou de manière plus large. Moi, j'ai pas connaissance de tels exercices sur Villefranche ou Glaizé. Ça peut être organisé, mais généralement, ça implique pas toute la population. La population, c'est son meilleur réflexe. Effectivement, ça sera de s'informer. Il y a l'Institut des risques majeurs aussi qui informe. Voilà, il y a pas mal de sites qui donnent des informations sur les bonnes conduites à tenir en cas d'inondation. Et voilà, et déjà, à l'avoir en tête, avoir en tête la nature du risque et ce qu'on peut faire pour essayer de s'en prémunir autant que possible, c'est déjà une étape qui est importante. Si tout le monde faisait ça, ça serait déjà une très bonne chose.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.